Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste Christine Ockrent, l'essayiste Philippe Manière, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti et l'éditorialiste du Monde Gérard Courtois. Au sommaire de ce dimanche 27 janvier, traité d'Aix-la-Chapelle, complotismes en tout genre, la saison des mensonges est-elle ouverte? Et puis après le sommet organisé cette semaine à Versailles par Emmanuel Macron pour stimuler les investissements étrangers dans notre pays, nous poserons la question, économie, la France est-elle une bonne affaire? Comment en était-on arrivé à ce qu'un traité franco-allemand destiné à raviver un pacte d'amitié entre deux dirigeants en détresse, Macron-Merkel, déclenche un tel niveau de n'importe quoi? La France allait vendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne et partager avec elle son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Le retour pur et simple d'une bonne vieille germanophobie à la française. En réalité, le traité d'Aix-la-Chapelle ne faisait que rappeler l'importance de la coopération transfrontalière et invitait Français et Allemands à coopérer également à l'ONU, Paris réaffirmant simplement son souhait de voir Berlin intégrer le Conseil de sécurité en tant que nouveau membre permanent. Voilà qui rappelait l'autre rumeur virale aberrante de la fin 2018 autour du traité de Marrakech. Accusé de déclencher, je cite, « une invasion migratoire », alors même que ce traité, bien au contraire, rappelait le principe de souveraineté et l'appel à la fermeté des États en matière d'immigration. Beaucoup déjà avait été dit sur la façon dont le numérique amplifiait les phénomènes ancestraux de rumeurs et de complots, dès lors que 40% de la population mondiale était sur Facebook, Twitter ou Instagram, et dès lors que le principe des algorithmes pouvait enfermer les utilisateurs dans des bulles de vérités alternatives. Mais il y avait encore beaucoup à dire, à comprendre et à alerter sur le fait que les époques instables comme celles que nous vivions, ces époques de crise identitaire, étaient propices aux infox. Des époques dont la philosophe Myriam Revaud-Allonne disait qu'elles semblaient dissoudre la frontière entre vérité et mensonge pour créer une sorte de zone grise où la vérité devenait secondaire. Un monde qui n'était plus fait que d'opinion, un monde où les médias, comme les politiques, n'avaient jamais autant suscité la défiance, un monde où des politiques n'hésitaient pas à entretenir eux-mêmes la confusion, un monde où des influences étrangères pouvaient aussi rentrer dans le grand jeu de l'infox, un monde enfin où la démocratie était en danger dès lors qu'il n'y avait plus ce socle minimal de vérités intouchables dont nous avions viscéralement besoin pour vivre ensemble.
Et l'histoire de l'ONU, c'est de signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre.
C'est chaud.
Bon bah là, s'il fait ça, il vend la France carrément.
Le 22 janvier va être signé un traité franco-allemand, en cachette, en secret. Ce traité organise la soumission de la politique étrangère, diplomatique et de défense de la France à l'Allemagne.
Mais le plus grave, ce sont deux mesures qui montrent que nos dirigeants ne croient plus dans la France et qu'ils organisent la vente à la découpe de notre pays.
Et vous aurez entendu dans l'ordre des figures des Gilets jaunes, Maxime Nicole et Éric Drouet lors de Facebook Live, ainsi que Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Philippe Manière, ces fake news ou intox ou mensonges, peu importe comment on les appelle, autour du traité d'Aix-la-Chapelle, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'époque, des politiques et aussi de nos peurs?
Vous avez raison, ils parlent de Détroit. Je trouve ça extrêmement troublant parce que sincèrement, je pense que peu d'entre nous auraient imaginé il y a seulement 5 ans qu'on allait se trouver dans une situation où la vérité allait être à ce point relativisée, considérée comme une possibilité parmi d'autres. La vérité factuelle, parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément de vérité en matière d'opinion, mais enfin, il y a tout de même des vérités factuelles. Et s'agissant de ce traité, moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai lu il y a quelques jours, c'est à quel point il est précisément relativement creux et décevant pour ceux qui souhaitaient une intensification de la relation franco-allemande et a fortiori un pas supplémentaire en matière d'intégration européenne. Alors comment on en est arrivé là? Il y a ce qui a été évoqué au tout début par vous-même, Émilie, c'est-à-dire toutes ces questions de bulles cognitives, d'enfermement dans des pensées qui peuvent être complètement fausses mais qui tiennent chaud parce qu'on a le sentiment que tout le monde pense pareil. Il y a le doute, la défiance qui s'est installée vis-à-vis de tout ce qui ressemble à un expert ou à un dirigeant, ce qui en dit long sur quelque chose de très grave, qui est une sorte d'impasse dans laquelle est engagée la démocratie représentative qui nous semblait installée pour l'éternité et qui est mise en question, me semble-t-il, par ce sujet. Puis il y a quelque chose qui me semble encore plus troublant intellectuellement, qui est cette espèce de confusion entre deux choses qui sont d'une part un progrès objectivement peu contestable constaté depuis disons une dizaine d'années, qui est l'accès égal à l'expression, c'est-à-dire beaucoup plus de gens qu'avant peuvent s'exprimer, avec quelque chose qui n'a rien à voir et qui est l'égale validité des opinions. Je pense qu'un des problèmes auxquels on a affaire, c'est qu'il est très difficile de faire comprendre à un très grand nombre de nos contemporains que ce n'est pas parce que tout le monde peut s'exprimer également, tout le monde a pratiquement le même accès à l'expression, que toutes les opinions se valent. Et que précisément au regard des faits, précisément au regard de ce qu'a fait, j'allais dire, la gloire de l'Occident, c'est-à-dire le raisonnement hypothético-déductif et la raison, eh bien, il y a des opinions qui sont valides et d'autres qui sont invalides. Et alors, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des opinions divergentes, puis il y a des sujets sur lesquels le spectre des opinions admissibles, dans un débat honnête, est limité par la réalité des faits. Eh bien, ça, je crois que l'explosion de l'Internet, qui a donné justement accès à un nombre très considérable de gens à une expression dont ils étaient auparavant, si ce n'est privé, en tout cas auquel ils n'avaient pas accès, rend très difficile la barrière qu'on doit se mettre, que chacun d'entre nous doit mettre dans son cheminement de pensée, entre, d'une part, je peux parler comme tout le monde, et d'autre part, mon opinion a la même valeur que celle des autres. Et ça, c'est, je crois que c'est vraiment un problème qu'on va traîner longtemps parce que je crois que c'est très difficile à expliquer.
Même si balayons devant notre porte, nous incarnons sans doute tous les cinq dans ce studio précisément ce que dénonce aussi une partie des figures de ce mouvement, c'est-à-dire, j'ouvre des guillemets, des élites ou des experts réunis ensemble pour essayer de parler, de commenter, d'analyser l'actualité. Vous disiez aujourd'hui cet accès que tout le monde a à la parole, c'est vraiment ce à quoi on a assisté cette semaine, Gérard Courtois, avec en effet ce président Macron désormais en prise directe avec les Français et même avec des gilets jaunes. Ça, c'était jeudi soir. Et puis tous ces débats à la télévision, maintenant, on met le plus de gens possible ensemble. On a vu ça sur LCI, on a vu ça jeudi soir sur France 2. Cette semaine-là de prise directe, d'accès à la parole, elle suscite en vous, journaliste politique chevronné, quel commentaire ?
Alors, le commentaire très simple que Emmanuel Macron a été élu en dégageant les partis traditionnels, de droite comme de gauche, qu'il a gouverné pendant 18 mois en négligeant ou en rudoyant les corps intermédiaires, que ce soit les élus locaux ou les syndicats, par exemple, et qu'il se retrouve aujourd'hui confronté à ce qu'il a créé, c'est-à-dire une relation directe, électrique et sans filtre avec les citoyens, on va dire le peuple, bon, les citoyens. Il a gagné sur ce pari-là ou sur ce défi-là. Il a été déstabilisé par le même défi et il est en train d'essayer de relever, de reconstruire une relation directe. Qu'en adviendra-t-il dans 2 mois ? C'est assez difficile à dire. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur 2 ou 3 choses sur Aix-la-Chapelle, parce qu'on n'a pas épuisé le sujet.
Absolument, vous verrez que c'était une digression. Il y avait une digression qui avait un sens, c'est-à-dire est-ce que cette prise directe, justement, a un lien, ou en tout cas quelque chose à analyser avec ce que nous disions au départ, justement, ce rapport à la vérité ?
Le rapport à la vérité, il est totalement menacé par ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ça, c'est évident. Je voudrais juste faire une remarque quand même préalable, c'est que s'il y avait eu ne serait-ce qu'un débat parlementaire sur le traité d'Aix-la-Chapelle, je pense qu'on n'aurait pas eu droit à toutes ces élucubrations et à ces mensonges. Et deuxième chose, moi j'aime pas l'expression « infox ». Parce que dans Infox, il y a quelque part de l'info. C'est de l'intox, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. C'est pas de l'info détournée. Voilà.
Ça veut dire que c'est une mauvaise traduction de fake news.
Oui, je trouve. C'est une vérité. C'est une fausse vérité. C'est pas de l'infox. Oui,
comme ceux qui disent qui parlent de vérité alternative, ce qui est un terme qui peut poser problème lui aussi.
Mais on a effectivement.
Trump qui a la vérité alternative.
Vous avez raison. Il y a dans les deux mécanismes, puisque vous mettez en parallèle ou en confrontation la situation d'Emmanuel Macron et cette histoire de traité d'Aix-la-Chapelle, dans les deux situations, on a déjà un point commun, c'est les pouvoirs nous mentent. C'est la base du complotisme, c'est la base de la recherche d'une vérité cachée derrière la vérité officielle. Les pouvoirs nous mentent. C'est le fond de la défiance. On a eu le baromètre de Sciences Po sur la confiance en politique là, il y a une dizaine de jours, qui témoigne de cette défiance massive, impressionnante à l'égard des dirigeants, à l'égard des politiques, à l'égard de la parole officielle, à l'égard des médias aussi.
Oui. Avec notamment cette étude publiée dans La Croix cette semaine.
En plus. Bien. Et à partir du moment où il y a une vérité officielle derrière laquelle il faut débusquer la vraie vérité, c'est ce que disait Philippe Manière, il n'y a plus de vérité des faits. Il n'y a plus de vérité de réalité constatée, partagée et qui forme le socle d'un débat démocratique honnête et sérieux. Et enfin, dans tous les cas, on joue sur des ressorts extrêmement puissants. Deux ressorts, le bouc émissaire. Alors c'est l'immigré dans le pacte de Marrakech, c'est l'Allemand avec son casque à pointe dans le cas d'Aix-la-Chapelle, et on joue également sur le sentiment que le pays, la France, est une forteresse assiégée, que les pouvoirs seraient soupçonnés en permanence de vouloir trahir. C'est vraiment des paranoïas, ou des paranoïas, ou des fantasmes qui sont... d'autant plus puissant, vous l'avez dit, on l'a dit, que l'industrie des réseaux sociaux, c'est une industrie extrêmement puissante. Je n'ai plus en tête les chiffres, mais c'est fascinant. L'accélération de la circulation de l'information est absolument fascinante, surtout quand on travaille dans un journal qui est encore imprimé sur du papier. On a toutes les heures sur Facebook 8 millions de messages qui sont envoyés, 8 millions de photos, 30 millions de commentaires toutes les heures. C'est totalement vertigineux. Par rapport à ça, je ne citerai aucun chiffre sur ni la diffusion des journaux écrits, ni l'audience des médias traditionnels.
C'est le chiffre que je citais tout à l'heure, c'est 40% de la population mondiale qui est aujourd'hui sur Facebook, Twitter et Instagram. Aurélie Filippetti, vous avez déjà eu l'occasion de nous confier que vous aviez quitté la politique précisément pour ce nouvel environnement-là, pour ce nouveau rapport à la vérité-là et pour ce nouveau système de la parole pour tous qui s'exprime de cette façon-là sur les réseaux sociaux.
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui quasiment une impossibilité de continuer à faire de la politique si on refuse d'entrer dans un certain... jeu de manipulation d'opinion. Alors on peut le faire pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais ça devient extrêmement compliqué, par exemple, de refuser de jouer le jeu des réseaux sociaux, des tweets en permanence et des chaînes d'infos en continu.
Ou d'aller chez Cyril Hanouna comme Marlène Schiappa.
Alors, la question de Cyril Hanouna, c'est une question un peu plus ancienne, en fait. On se souvient déjà dans les années 80, il y avait des questions, est-ce que Lionel Jospin devait aller jouer de l'accordéon ou non,
c'était Giscard.
Jouer de l'accordéon dans telle ou telle émission. Alors, ce côté spectacle...
Jospin, c'était Michel Drucker qui voulait
parler. Alors voilà, je mélange mes références, mais qui ne diront rien à tous les moins de 20 ans, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, cette question-là de la politique spectacle, je dirais, elle a toujours existé. Mais ce qui est aujourd'hui absolument difficile et déterminant, c'est que au fond il y a une forme de confusion entre l'égalité. Moi, je suis une fervente défenseur de cette notion d'égalité qui est au fondement de la République, l'égalité, et au fond le relativisme culturel, c'est-à-dire que l'idée que tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas, des opinions se valent. Je ferai une nuance dans les propos de Philippe Manière tout à l'heure. Les opinions se valent, oui, mais tout n'est pas opinion. Il y a des affirmations qui reposent sur des raisonnements hypothético-déductifs, sur des vérités scientifiques, et il y a au fond des procédures qui permettent de distinguer ce qu'est une opinion et ce qu'est une vérité scientifique.
On dit la même chose, hein ?
Oui, non, mais c'est juste sur le fait que si on parle d'opinion, à ce moment-là, oui, mon opinion vaut l'opinion de n'importe lequel de nos concitoyens.
À condition qu'elle ne contredise pas les faits observables.
Voilà, à condition que je ne dise pas, je peux dire, je peux affirmer que, je ne sais pas, je suis contre le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, ce qui est évidemment, mais je n'ai pas le droit de dire que le traité d'Aix-la-Chapelle le prévoit. Bon, alors c'est vraiment la difficulté, je crois, c'est comment au fond donner aux gens les outils pour permettre de distinguer ce qu'est l'opinion et ce qu'est au fond une vérité scientifique. Ça peut être une vérité scientifique évidemment des sciences dures, mais c'est aussi faut rappeler aussi la légitimité des sciences sociales, c'est-à-dire que un historien travaille, par exemple, avec des sources. Ces sources sont vérifiables, elles sont contestables. Elles peuvent être contestées en apportant d'autres sources, avec le même niveau de légitimité. Il y a un raisonnement ensuite, et il peut être contesté par des pairs selon le même raisonnement. Donc en fait, certes, il n'y a pas de vérité scientifique de toute éternité, mais la vérité scientifique ne peut être contestée, remise en cause que par un type de raisonnement qui se fonde sur, au fond, la même méthode. Et si, vous voyez, par exemple, on ne peut pas demander aux gens de donner leur opinion pour savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça se prouve, ça se démontre. Et au fond, c'est la même chose pour tout ce qui concerne les sciences sociales, le droit, la géopolitique.
Mais dans cette affaire du traité d'Aix-la-Chapelle, Christine Ockrent, il y avait un texte qu'il était relativement facile d'aller lire ou de se procurer, dont on peut espérer que les leaders politiques les ont lus. Il y a pourtant eu cette passe d'armes un peu surréaliste sur France Inter cette semaine entre Jordan Bardella, tête de liste pour les Européennes
du
Front National.
Oui, j'allais vous en parler parce que voilà. Ça, c'est tout à fait saisissant.
Alors, d'abord, il s'appelle
Jordan, donc ça prouve l'influence des séries télé sur le choix des prénoms des enfants au fil des générations. Mais effectivement, ce jeune homme qui a, je crois, 23 ans, me semble-t-il, a dit, face aux journalistes qui disaient, mais quand même...
Aléa Salamé.
Lisez le texte, il n'y a rien de tout ça sur, évidemment, la vente, le rattachement de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne. Et il dit, oui, mais c'est mon avis. Et moi, ce qui me frappe, et sans du tout, bien évidemment, mettre Aurélie dans cette même enveloppe, mais je trouve qu'il y a une inversion des rapports de force entre l'opinion sous pseudo, anonyme, qui s'exprime de façon effectivement parfaitement égalitaire sur les réseaux sociaux, et certains leaders politiques, on les a entendus, l'ineffable Dupont-Aignan, Marine Le Pen, et au fond qui considèrent qu'à partir du moment où la vox populi anonyme, négligeant les faits, les ignorant ou les piétinant, dit « c'est ça qui compte », c'est ça qu'il faut dire, eh bien ils suivent. Et donc il y a un suivisme désormais, une espèce de phénomène où il faut coller véritablement à cette espèce de voix informe, difforme et toujours anonyme, encore une fois j'insiste, qui méprise les faits, qui ne s'en préoccupe absolument pas. Et là je trouve qu'on a franchi un palier, singulièrement à cause de ces deux dirigeants politiques en question, et bien sûr en fonction du calendrier politique qui s'annonce au niveau européen. Et ça, me semble-t-il, c'est tout à fait nouveau. Et on voit aussi l'affolement des médias traditionnels. C'est vrai que ces débats, pardon pour l'expression, mais fourre-tout, où on se dit « il faut vraiment inviter tout le monde ». Alors, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire un désordre qui ajoute encore, me semble-t-il, à la confusion des esprits et qui, de toute façon, ne sont regardés que par des gens qui, eux, se raccrochent encore à une grille de lecture ou à une grille d'analyse plus traditionnelle. Et vous faisiez allusion au sondage annuel de la Croix qui prouve de façon évidemment catastrophique à quel point le niveau de confiance dans les médias, c'est pas nouveau, hein, mais là il est vrai que le déclin est encore plus abrupt, même si la radio s'en sort relativement moins mal, et on peut faire un peu de patriotisme en ce qui concerne France Culture.
Ou dire les bonnes audiences de France Culture,
voilà,
qui peut-être signifie quelque chose de réconfortant sur la période que nous vivons.
Oui, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Cela concerne évidemment des gens qui déjà participent de ce souci d'analyse et des faits qui sont quand même à la base du métier. métier. Mais moi, j'insiste sur cette tendance d'une classe politique affolée, elle aussi, à coller, encore une fois, désormais aux réseaux sociaux et à voir les tendances lourdes. C'est un phénomène que l'on voit non seulement en France, mais qu'on voit dans beaucoup de
démocraties. On pense à Trump ou à Bolsonaro qui ont remporté les élections grâce à leurs millions de followers.
On pense surtout à l'Italie.
Et à l'Italie.
Où là, le mouvement 5 étoiles est né des algorithmes mis au point par un ingénieur qui est mort maintenant et son fils aujourd'hui. Et c'est à partir de là que Beppe Grillo a pu construire une force politique.
Vous citiez l'étude de La Croix qui révélait aussi que 32% des personnes interrogées disaient comprendre les violences sur les journalistes. C'était peut-être important et intéressant de rappeler ce chiffre. Vous parliez, Christine, d'affolement à la fois des médias et des responsables politiques face à ce nouveau rapport, cette nouvelle relation à la fois à l'expression et à la vérité. Alors on entend en effet ça et là des tentatives d'en sortir. Philippe Manière, Emmanuel Macron suggère que l'on puisse sortir de l'anonymat sur les réseaux sociaux, contraindre à sortir de l'anonymat. Piste de travail. On sait qu'en Allemagne, il y a une loi qui oblige les réseaux sociaux à enlever sous 24 heures les contenus problématiques. On sait qu'en Italie, il est possible de dénoncer une fake news sur le site de la police. Il y a la France qui, elle aussi, a son texte, prépare son texte législatif. Mais c'est vrai qu'on constate d'abord et avant tout cette impuissance.
Ouais, mais c'est fatal. Moi, j'étais très hostile à la loi fake news parce que ça met entre les mains des juges des responsables. D'abord, je pense que ce pays qui s'honore d'être un pays qui est attaché aux libertés publiques depuis une dizaine d'années ne procède qu'à des reculs dans cette matière. Donc moi, c'est toujours des sujets sur lesquels je suis par méthode inquiet. Et quand je vois le contenu des précédentes lois, je suis pas pressé d'en voir une autre arriver. Mais sur le plan opérationnel, surtout, si par exemple il y a une fake news qui dit que le ciel est rouge, bon, on peut considérer qu'un magistrat peut assez facilement considérer que c'est une fake news. Mais si on dit, je prends un exemple absolument par hasard, que Nicolas Sarkozy a 4 enfants cachés qui vivent au château de Vincennes, ou Emmanuel Macron, qui vous voudrez. Mais quel magistrat a la capacité, dans des délais, fussent-ils longs, de dire non, c'est faux, et donc je retire. Enfin, on est chez les dingues à partir du moment où on confie au magistrat. Précisément, on revient au problème de l'opinion et des faits. Parce que très souvent, ces fake news reposent sur des faits inventés, mélange ça avec de l'opinion et je vois strictement aucune autorité susceptible de faire le départ entre le vrai et le faux dès lors qu'il y a une dimension factuelle. Or, très souvent, vous verrez que toute cette communication fondée sur les fake news, qui est évidemment une communication délibérément manipulatrice et assumée comme telle, mélange précisément, et c'est très efficace, des pseudo-faits qui sont très difficiles, dont il est très difficile de démontrer qu'ils sont faux, avec derrière du commentaire intéressé. Et donc, moi, je ne vois pas très bien comment on peut lutter contre ça. L'anonymat, je suis assez favorable à ce qu'on limite l'anonymat, et en même temps, je suis sensible à l'idée selon laquelle, après tout, dans certaines circonstances de l'histoire, on était assez heureux que certaines personnes puissent dire ce qu'elles pensaient sous pseudo. Donc, c'est une question qui est difficile à trancher. Le plus souvent, les gens qui se retranchent derrière l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est pour dire des horreurs, des insultes qui n'apportent strictement rien, évidemment, au débat politique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est deux choses sur ces questions de fake news. D'abord, faut pas oublier que, même si on parle de fake news qui sont vraiment des fake news, c'est-à-dire que c'est faux, et effectivement, je suis d'accord avec Gérard Courtois sur le fait qu'un Fox ne restitue pas suffisamment la dimension ontologiquement fausse d'une fake news, surtout quand elle est délibérément émise pour obtenir un résultat politique. Il y a derrière quand même quelques raisons pour les braves gens, j'allais dire, de penser que les élites, pour opposer les braves gens aux élites, leur ont menti. D'abord, il y a eu dans certaines circonstances de notre histoire politique récente des situations compliquées. Par exemple, je me souviens qu'au moment où il était absolument considéré par tous, en tout cas, les élites communiaient dans l'idée qu'il fallait faire barrage au Front National par tous les moyens, on ne voulait même pas rentrer dans la discussion sur, par exemple, le poids ethnique des minorités visibles. Pour des raisons dont certaines sont compréhensibles, protection de l'anonymat, ne pas vouloir stigmatiser, etc.
D'autres étaient
et constitutionnelles, mais la constitution, on la change tous les 8 jours, donc on pourrait imaginer qu'on la change. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a d'autres pays qui sont parfaitement honorables et attachés aux libertés publiques qui permettent les statistiques ethniques. Toujours est-il qu'en interdisant le comptage et en interdisant même qu'on évoque la question, non pas comme un problème, mais comme une réalité, on a nourri l'idée qu'il fallait pas en parler. Si vous habitez une petite ville du sud de la France, en 30 ans, vous avez vu changer visuellement la population. Vous êtes aujourd'hui dans un supermarché Cavaillon ou du Var ou des Bouches-du-Rhône, vous avez visuellement une impression complètement différente de celle que vous aviez il y a 30 ou 50 ans. Et bien ça, pendant longtemps, le débat politique interdisait même de l'évoquer parce que c'était considéré comme étant attentatoire à nos valeurs, etc. Or, c'était une réalité. Donc les gens, beaucoup de gens, ont eu des raisons de penser qu'on leur mentait. C'est pas qu'on leur mentait, c'est qu'on était embarrassé à l'idée même d'évoquer cette question. Mais ça a alimenté. Il y a eu aussi beaucoup, je crois, d'erreurs qui ont été commises, à commencer par moi-même d'ailleurs, sur les effets de la mondialisation. Je continue à penser que la mondialisation a bien plus de bénéfices que d'inconvénients. Mais il est vrai que, sans doute, pour une certaine catégorie de population, il y a eu plus d'inconvénients que d'avantages. Et ce n'est pas une population qui peut s'adapter facilement. On ne peut pas dire à quelqu'un qui perd son job dans une industrie, dans une petite entreprise industrielle de Montbrison, qu'il va trouver un super job sur le plateau d'Orsay. Je ne dis pas que ça a été dit, mais ça a été suggéré par un certain nombre de gens.
Nous parlerons dans notre deuxième partie.
Et donc, au total, on se trouve dans une situation où, même si évidemment je condamne sans réserve les fake news et a fortiori l'utilisation qui en est faite par des gens mal intentionnés, il faut comprendre que les gens se disent que on leur a menti depuis un certain temps, même si c'est principalement faux. Il y a eu des circonstances où, de bonne foi ou de mauvaise foi, des choses ont été dites ou au contraire pas dites, qui alimentent l'idée qu'on ne dit pas tout.
Gérard Courtois, ce journal qui est le vôtre, le journal Le Monde, dimanche dernier, si je ne dis pas de bêtises, a fait tout un dossier pour expliquer qu'il y avait dans ce mouvement des Gilets jaunes un terrain d'influence pour la nébuleuse complotiste, rappelant les différentes rumeurs de ces dernières semaines. L'attentat de Strasbourg aurait été orchestré pour faire diversion. L'explosion de gaz à Paris le 12 janvier dernier, pareil. Des CRS étrangers auraient été embauchés par le gouvernement. Tout cela sur le thème du « il n'y a pas de hasard ».
Oui, et avant de vous répondre, je veux revenir sur une chose qu'a dite Christine tout à l'heure. Vous dites, Le Pen et Dupont-Aignan, sur l'affaire d'Aix-la-Chapelle et d'autres, ou le pacte de Marrakech, ont suivi les réseaux sociaux. Pour ce qui est de Le Pen, fille ou père, ils les ont aussi largement précédés.
Je parlais spécifiquement de ce cas évoqué par Émilie. Ce traité signé l'autre jour.
Ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux se sont aussi nourris d'une familiarisation avec deux ou trois idées, la submersion migratoire, la souveraineté menacée et trahie par les élites, du fait de la mondialisation et de l'Europe. Donc, il y a un jeu dans les deux sens. Si les réseaux d'ultra-droite, appelons-les comme on veut, de Français se sont emparés de ce mouvement des Gilets jaunes pour faire passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain des manifestations, leurs idées et leurs pratiques, c'est bien parce que c'est un milieu et c'est un média, je parle des réseaux sociaux, tellement plastique, tellement ouvert, Christine le disait, tellement anonyme, tellement commodément anonyme, qu'on peut effectivement y instiller absolument tout ce qu'on veut. Mais moi, là où je suis pas tout à fait d'accord, enfin pas complètement d'accord avec ce que disait Philippe Manière par rapport à ça, ce ne sont pas forcément des pseudo-faits ou des pseudo-vérités. C'est aussi un art assez habile et assez développé de prendre un texte, par exemple un traité, et d'en faire une lecture systématiquement soupçonneuse, d'aller chercher derrière chaque mot, derrière chaque disposition, qu'est-ce qu'on nous cache là ? Qu'est-ce qu'on nous cache ?
Et quand vous contestez, on vous dit « soyez pas naïfs ».
Exactement.
C'est terrible.
C'est aussi vieux que l'information.
Oui, sauf que c'est multiplié.
Depuis le 18e siècle.
Est-ce qu'au fond, Aurélie Fipetti, on résume les choses en expliquant qu'on a à la fois une colère contre les institutions, une colère d'époque contre les institutions, qui rencontre des ressorts idéologiques qui ont été mis en œuvre depuis plus de 15 ans sur les réseaux sociaux et sur d'autres supports?
Oui, mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on ait une illusion, vraiment l'illusion de l'actualité immédiate. Parce que si on prend par exemple l'histoire, les mouvements populistes se sont toujours construit à partir de propagande. Et la propagande, c'est leur arme la plus efficace, la plus importante.
Et elle n'est pas nouvelle.
Et ben justement, elle n'est pas du tout nouvelle. Rappelons, par exemple, ne serait-ce que le nazisme est né et a eu tant de succès en Allemagne parce que c'est, ils ont réussi, et beaucoup complices de cela avec eux, à instiller la petite musique que, au fond, l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale à cause d'un coup de poignard dans le dos, hein, des juifs et des socialo-communistes, etc. de l'époque. Et quasiment qu'elle ne l'avait pas perdu.
Elle était sur le point de la gagner.
Ça a été, et ça a permis à Adolf Hitler de vraiment construire son ascension là-dessus. Le mot, d'ailleurs, c'est intéressant d'écouter les analyses des chercheurs là-dessus, le mot qui revenait le plus souvent dans les discours de Hitler jusqu'en 1938, donc pendant 5 ans, au moment où il est au pouvoir, c'est le mot « paix ». Et il ne cessait de répéter que lui, il était celui qui voulait la paix pour l'Allemagne. Donc voilà, ce genre, cette manipulation d'opinion est vieille comme le monde. Maintenant, au fond, on doit quand même avoir confiance en une chose, c'est que malgré tout, moi je ne suis pas favorable effectivement à ce qu'on ait des mesures trop coercitives, parce que je pense qu'en fait elles sont contre-productives. Plus on va chercher à interdire, et quand je dis « on », c'est qui ? C'est-à-dire une forme d'autorité. Plus une quelconque autorité va chercher à interdire un certain nombre de choses, et plus ça va nourrir la théorie du complot. Il faut plutôt faire confiance justement aux gens et leur donner simplement des armes, des outils. Ce qui est frappant dans les études, c'est de voir que, par exemple, ce sont les seniors qui sont les plus crédules par rapport à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors que les jeunes, qui ont beaucoup plus l'habitude,
qui ont grandi dans cet environnement-là,
natifs du numérique, comme on dit, eux, ils ont plus de distance par rapport à ça.
Alors, ces nouvelles générations qui sont habituées et qui plébiscitent beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle la grande vogue des images brutes, c'est ceux-là qui fonctionnent aujourd'hui, c'est ceux-là qui marchent, c'est ceux-là qui cartonnent, par exemple celle du média brut, bien sûr, ou les lives aussi de la sulfureuse Russia Today, la chaîne d'information financée par le Kremlin, qui diffuse comme ça plein de vidéos en direct, qui enregistre des records de vues, ce dont se félicitait cette semaine dans le Figaro Xenia Fedorova, la présidente de Russia Today. Il y a ça aussi dans ce climat que nous vivons, Christine Ockrent, dans ce nouvel environnement-là qui est ouvert, j'allais dire, aux quatre vents, à toutes les influences étrangères.
Il y a surtout, la découverte, qui n'est pas récente véritablement, de ce qu'un politologue américain a appelé le soft power, c'est-à-dire le pouvoir d'influencer les opinions publiques et les États, les gouvernements, certains régimes, à commencer par le Kremlin, s'y sont mis avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'efficacité. Et on se souvient que lorsque Emmanuel Macron a reçu à Versailles Vladimir Poutine, il avait pris soin de refuser de répondre aux questions d'un représentant de cette chaîne orchestrée directement par les CI de Vladimir Poutine, donc Russia Today, qui a néanmoins l'autorisation d'émettre en France, dirigée par cette jeune femme extrêmement pétulante et énergique. Et il est bien évident que ce média en particulier exploite tout ce qui peut prouver jusqu'à l'excès, mais en fait, c'est ce qu'on fait aussi, on fait les chaînes d'information continues en France, mais tout ce qui peut prouver le désordre, l'instabilité, la paralysie, l'incurie des démocraties en Europe. Oui, ça, c'est tout à fait le dessein.
L'image brute est censée ne pas pouvoir mentir, mais en réalité, la manipulation de l'image est toujours possible.
Chère Émilie, c'est pas à vous que je vais évidemment dire que l'image brute n'existe pas. Et d'ailleurs, il était très intéressant, je crois que c'était dans Libération, qui a repris un texte de Bourdieu, qui à la télévision expliquait, me semble-t-il, dans les années 80, qu'il ne fallait surtout pas cadrer l'image. Donc ça, il n'y a qu'un intello français de la rive gauche qui peut dire qu'une image ne peut pas être cadrée. C'est juste absurde. Mais il est évident que la mise en image, et la mise en image soi-disant brute, et notamment par ce jeune homme qui, lui, est très populaire sur les réseaux sociaux, parce que soi-disant, il prend la parole brute telle qu'elle s'exprime, telle qu'elle jaillit du peuple, c'est bidon. Enfin, bien, je mets pas en cause l'honnêteté de ce garçon, mais il est bien évident que s'il met, il se met devant telle personne plutôt que telle autre, qu'il la cadre en très gros plan ou au contraire en plan large, qu'il montre la foule admirative autour, ou au contraire, si son interlocuteur est tout seul devant un supermarché, ça n'a absolument pas le même sens. Mais pour en revenir à votre question sur Russia Today, oui, cela fait évidemment énormément de publicité, d'abord. Cela dit, je conseille d'aller voir Russia Today, parce que ce qui est fascinant, c'est pas tellement la manière dont il couvre l'actualité française, c'est la manière dont il couvre l'actualité tout court. Et en particulier, ce qui se passe en Syrie, par exemple, c'est tout à fait étonnant.
Allez, on va maintenant quitter le monde numérique pour le terrain économique. La France est-elle encore une bonne affaire ?
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Choose France, c'était beau comme un slogan d'agence de voyage. Choisis la France, c'était le nom de cette opération lancée par le président français qui, pour la deuxième année consécutive, sur le chemin du Forum économique de Davos, invitait les dirigeants des plus grands groupes du monde entier à faire étape au château de Versailles pour leur chanter les vertus de la France comme terre d'investissement. Cruauté du temps qui passe et du kaléidoscope d'un quinquennat, on avait bien sûr en tête les images de Versailles l'an dernier sur le thème « France is back » et les grands patrons ravis de s'afficher aux côtés d'un jeune président français à qui tout semblait sourire, dont on vantait alors le réformisme et le leadership facile. Rideau sur la success story macronienne, ellipse temporelle, un an après, le président Macron devait tenter d'estomper les images d'une France où chaque samedi, des milliers de personnes descendaient dans les rues pour réclamer sa démission, et ces images qui avaient fait le tour du monde d'arcs de triomphe tagués et de voitures brûlées. Alors le président s'évertuait à dire au patron qu'il ne lâchait rien sur son programme de réforme, qu'il ne changerait pas d'avis sur l'ISF ni sur la flat tax sur les revenus du capital. Emmanuel Macron, rassuré par différentes études qui indiquaient que l'attractivité de la France restait forte, le cabinet Kantar, par exemple, nous indiquant cette semaine que l'Hexagone maintenait son rang de deuxième pays le plus attractif d'Europe derrière l'Allemagne. En attendant, on ne savait plus très bien comment considérer la France. Ce pays dont l'OCDE nous rappelait cette semaine qu'il restait numéro 1 des dépenses sociales, alors même qu'on entendait parler depuis 11 semaines de modèles en péril, de services sociaux et de services publics défaillants. Cette France dont l'exécutif nous promettait qu'elle était en train de reprendre des couleurs, remontée du pouvoir d'achat, regain de création d'emplois, même si on savait aussi que les plans sociaux et la désindustrialisation des territoires se poursuivaient. Le constructeur américain Ford, par exemple, allait fermer son site de Gironde, menaçant des milliers d'emplois, ce qui serait une catastrophe pour toute l'économie de la ville de Blanquefort. Pendant ce temps, à Davos, l'air était lourd pour les Occidentaux, sur fond de Brexit et de shutdown américain. La Chine, elle, avait champ libre. Mais on entendait aussi Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique de Davos, appelant, comme il l'avait déjà fait, à la remoralisation de la mondialisation, un appel qui sonnait un peu différemment des années précédentes, comme le sentiment d'une urgence.
We feel the globalization 4.0.
Nous pensons que la mondialisation 4.0 doit être plus centrée autour de l'humain. Parce que nous sommes maintenant dans une sorte de bataille entre robots et humains. Mais la mondialisation doit être aussi plus inclusive. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser des gens sur le bord de la route, à l'ère des réseaux sociaux. Et nous devons prendre conscience des valeurs de la justice sociale. C'est très important, la mondialisation 4.0 doit être aussi beaucoup plus durable, respectueuse de l'environnement. Nous avons besoin d'une remoralisation de la mondialisation.
Klaus Schwab, le président de Davos, qui vous fait lever les yeux au ciel, Philippe Manière.
J'ai toujours regardé ce cirque de Davos avec beaucoup de circonspection, et l'entendre là, ça me fait franchement rire, c'est-à-dire que... ce que ça veut dire, à contrario, c'est qu'il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, il était légitime de ne pas se préoccuper ni de la planète, ni des travailleurs. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde.
Qu'il l'avait déjà dit.
Mais évidemment, et il dit à peu près les mêmes trucs, washi-washi. Tout ça est exclusivement du business. Ça n'a strictement aucun intérêt intellectuel. Il ne faut juste pas s'en occuper. C'est Davos. Voilà.
Donc vous comprenez que cette année, personne n'aille à Davos.
Enfin, personne.
Non, il y a
à part
du monde.
Les Chinois.
Il manque une poignée de présidents. C'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle pour Davos. Davos est une magnifique opération financière qui va probablement pas avoir une bonne année parce qu'il manque 3 ou 4 invités vedettes, mais qui va certainement continuer à prospérer sur les mêmes recettes, c'est-à-dire la promesse. Enfin, franchement, ça repose sur quoi? Sur la vanité. C'est-à-dire, un, il faut en être. Deux, on est content parce qu'on va avoir des people. Enfin, tout ça est quand même, à mon avis.
C'était assez réussi l'an dernier. Cette année,
c'est réussi depuis des années et ça fait la fortune d'un certain nombre de gens. Moi, je
me réjouis
pour eux. Simplement, faut pas compter sur moi pour contribuer à leur fortune.
Il y a peut-être un lien avec le sujet précédent d'ailleurs, parce que si les gens sont tellement sensibles, tellement vulnérables vis-à-vis des théories du complot, c'est peut-être parce qu'ils ont l'impression qu'à un moment donné, ils choisissent des gens pour les représenter, des élus, hein, la représentation politique, et puis ils retrouvent ces élus dans des cercles qui ne défendent que leurs intérêts financiers, par exemple celui de Davos. Et ce sentiment au fond d'une trahison des mandats politiques, des mandats au fond, défendre l'intérêt général et non pas quelques intérêts particuliers et en particulier les intérêts des plus puissants des puissants, eh bien ça, je pense que c'est aussi dans vraiment l'époque très très contemporaine, ce qui est à la source de la crédulité vis-à-vis de certaines théories du complot. Parce qu'au fond, qu'est-ce que disent et notamment, enfin qu'est-ce qu'on ressent, enfin moi j'ai l'impression à travers par exemple qui s'exprime chez les Gilets jaunes, qu'au fond les gens ont peur de perdre un certain nombre de ce qui fait peut-être notre modèle social, enfin ce qui les protège, ce qui protège les plus fragiles, ceux qui travaillent, les classes moyennes. Et ils se disent, d'accord, en France, on n'est peut-être pas encore aussi mal logé qu'ailleurs, mais au fond, là-haut, dans les sphères dirigeantes, ils sont en train de préparer ce qui pourrait être la destruction de notre système de santé, la destruction de notre système de retraite. Et c'est ce sentiment-là qui est extrêmement anxiogène, qui vient nourrir, au fond, cette crédulité.
Est-ce que c'est exactement la semaine que nous venons de vivre, Aurélie Filippetti, avec à la fois cette étude de l'OCDE, je la citais tout à l'heure, qui rappelle quand même que la France reste numéro un en termes de dépenses sociales, et par ailleurs, ce Choose Friends Summit auquel a participé, a organisé même Emmanuel Macron cette année pour la deuxième année consécutive, ce genre de conclave de patrons, c'est ce qu'il faudrait éviter aujourd'hui en termes de symbolique politique.
Non, moi, ce qui me frappe dans la semaine, c'est pas l'étude de l'OCDE, c'est le télescopage entre d'un côté Macron à Versailles avec le Gothard économique mondial et de l'autre côté le même Emmanuel Macron, soit à Souillac la semaine dernière, soit jeudi dernier dans la Drôme, en train de faire au fond le même travail, très étonnamment.
Comment s'appelle ce job-là?
Ce job-là s'appelle président de la République.
Version 2019.
En difficulté.
Ça s'appelle en même temps.
Qui, d'un côté... Non, mais quand je dis faire le même travail, c'est démontrer aux patrons mondiaux que...
La France reste une bonne affaire.
Que la France reste une bonne affaire, comme vous l'avez dit, et démontrer aux gilets jaunes et aux citoyens en général, et aux maires qu'il a rencontrés, que sa politique est la bonne et qu'elle va dans le bon sens. Mais... Ce télescopage, il donne à voir une fracture absolument vertigineuse de la société française entre d'un côté ceux pour qui la mondialisation est le terrain de jeu naturel, évident, nécessaire, et ceux pour qui la mondialisation est un horizon totalement angoissant.
Est-ce que le grand écart est toujours valable, Christine Ockrent, parce que par ailleurs, on entend aussi des gilets jaunes depuis des semaines expliquer qu'ils sont assommés d'impôts, que le coût du travail en France est trop élevé. On a entendu plein de petits patrons ou des artisans ou des commerçants qui parlaient aussi de cela, au fond, d'une fiscalité.
Oui, mais ça, c'est une lamentation française ancestrale. Et dans les mêmes études de l'OCDE que vous citiez, on voit non seulement qu'on a la part de dépenses sociales la plus élevée, en tout cas des pays d'Europe, et pas nécessairement des dépenses publiques, et pas nécessairement le meilleur taux d'efficacité. Et de la même manière, on a un taux d'imposition qui est extrêmement élevé. Mais pour revenir
sur ce grand écart,
d'abord, je ne suis pas d'accord sur ce grand écart. Qui peut créer des emplois?
Non, c'est vrai.
Ce sont, bien évidemment, des grands patrons, appelons-les comme ça, en tout cas des gens qui sont à la tête d'entreprises, souvent multinationales. Quand on regarde le CAC 40, il faut bien voir que les entreprises françaises cotées sont pour la plupart, déjà, bien évidemment, mondialisation oblige, participent de cette économie-là, et c'est cette économie-là qui crée des emplois. Donc, je crois qu'il faut aussi ne pas accentuer cette caricature. Je trouve que c'est une excellente idée que d'accueillir à Versailles, qui impressionne quand même depuis le Roi Soleil, et c'était le but, tout visiteur étranger de surcroît, avant Davos, moins de grands patrons, effectivement, lundi dernier, puisque moins de gens à Davos. Néanmoins, ce sont encore une fois des gens qui peuvent dire, je pense en particulier au patron de JP Morgan, qui lui, Brexit aidant, dit depuis des mois, moi je rapatrie des emplois en France. Et donc il faut bien évidemment se saisir aussi.
C'est-à-dire que la France reste ou redevient attractive juste parce qu'il y a le Brexit ou qu'il y a le président Trump ou...
Non, parce qu'il y a toutes sortes d'atouts qui tiennent à l'éducation supérieure pour ceux qui ont accès. Et donc là on retrouve bien évidemment la fracture dont parle Gérard Courtois. Néanmoins, il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Il faut faire en sorte que, oui, la France reste un pays où les gens ont envie de venir nous visiter. Le tourisme est une ressource absolument majeure et ce n'est pas en cassant tous les samedis ou en taguant l'Arc de Triomphe qu'on va encourager les touristes à venir. Oui, il faut encourager ceux qui veulent créer des emplois. Oui, il faut encourager toutes ces entreprises qui ont maintenant une peur bleue du Brexit dur le 29 mars prochain et qui réfléchissent à la manière d'atténuer ce choc. Et oui, faisons en sorte, bien évidemment, que cela crée des emplois en France.
Juste un mot de réponse à Christine.
Gérard Courtois.
La France est le pays, c'est un fait, ça, un fait constaté, le pays où la mondialisation est la plus anxiogène d'Europe. Je pense très simplement parce que et la droite et la gauche qui ont gouverné pendant 20 ans, ils sont allés à reculons, n'en ont pas fait la pédagogie, et en particulier la gauche.
C'est ce que disait Bertrand Badie la semaine dernière dans cette émission.
Je suis Aurélie Philippe d'accord Petit. Avec ça. Je pense que si les gens ont peur de la mondialisation, c'est parce qu'ils ont peur de la mondialisation néolibérale. Et c'est-à-dire qu'au fond,
dès qu'on brandit cet adjectif, on a tout réglé.
Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que notre système de santé, par exemple, est effectivement le meilleur du monde et sans doute encore le plus juste. Les gens savent ça, que en France, on peut se faire soigner quel que soit ce qu'on a sur son compte en banque et même si on n'en a pas. Et ça, ils n'ont pas envie de le perdre et ils ont peur de le perdre.
Mais pourquoi le perdrait-il? Qui dit qu'on va le perdre?
Ils ont peur de le perdre. Vous pouvez considérer que c'est pour des raisons irrationnelles. Mais en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que ailleurs dans le monde et même en Europe, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi? À part les pays scandinaves, bien sûr.
Où
et
le Canada,
taux, par ailleurs, de prélèvement obligatoire
est aussi
important. Donc ils ont peur de perdre
bon
ça.
Système de santé.
Donc c'est quand même parce qu'ils sont attachés à cela, ils sont attachés à un système de protection sociale, enfin en gros à tout le modèle social français depuis l'après-guerre, qui a été construit dans l'après-guerre avec un consensus. Mais le problème des impôts, c'est qu'ils ont l'impression que ces impôts sont injustes. Et quand on parle des grandes entreprises...
Pourtant, c'est la France qui est la plus redistributrice.
Non, mais quand on parle des grandes entreprises, par exemple l'impôt sur les sociétés...
Laissez finir Aurélie Philippe Petit.
L'impôt sur les sociétés en France, le problème, c'est que l'impôt sur les sociétés est là dans toutes les études, on le voyait. Plus les entreprises étaient grosses, puissantes, mondialisées, moins elles payaient d'impôts sur les sociétés en France. Et donc, en fait, ce sont les PME, PMI qui sont les entreprises qui créent le plus d'emplois, qui payent proportionnellement le plus d'impôts. Et ça c'est injuste. Or, on voit... Par exemple, ce que propose Bruno Le Maire, la taxation des GAFA, c'est très bien sur le principe, mais il dit, bon, on va arriver à 5%. Mais 5%, c'est absolument ridicule par rapport, en gros, à un taux moyen d'imposition sur les sociétés qui est de 30% pour tous les petits entrepreneurs dans les territoires qui cherchent à créer de l'emploi territorialisé. Donc c'est ça qui ne va pas, c'est ce sentiment d'injustice. Les gens sont d'accord. Moi, je pense que les gens, les Français, sont pas idiots. Ils savent très bien que payer des impôts, ça participe de la citoyenneté et c'est nécessaire. Simplement, ils veulent que ce soit plus juste. Voilà.
Est-ce qu'on n'est pas là aussi précisément dans ce paradoxe français, Philippe Manière, que résumait assez bien Pascal Bruckner cette semaine en disant qu'au fond, les Français disaient au pouvoir « Foutez-nous la paix et occupez-vous de nous ».
Oui, ce qui est un peu paradoxal, évidemment. Le « foutez-nous la paix », c'est une tradition française quand même. Hein. Rappelez-vous, Pompidou, il disait quelque chose que beaucoup de Français pensent. C'est-à-dire que la vie serait quand même plus facile s'il n'y avait pas toute cette espèce de réseau de contraintes bureaucratiques qui, objectivement, en sert à la France plus qu'un certain nombre de ses concurrents. Et dans certains cas, d'impôts qui sont parfaitement anormaux. Par exemple, moi, je trouve que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le pauvre ouvrier licencié à Montbrison. L'un des malheurs de la France, c'est sa désindustrialisation. Pourquoi ? Parce que
qu'on va voir encore ces prochains jours, je le citais, avec la fermeture de l'usine Ford.
Oui, alors encore une fois, Bordeaux, c'est pas l'endroit le plus douloureux, mais vous avez en
c'est
France
pas Bordeaux,
traditionnellement
c'est
beaucoup de petites villes moyennes où l'emploi tournait beaucoup autour de l'usine moyenne. Cette usine, elle avait énormément de vocations, non seulement économiques, parce que dans l'usine, je ne vais pas faire un cours d'économie sur un coin de table, excusez-moi, ni être cuistre, mais quand vous fixez du capital, vous pouvez payer les gens plus cher. Pour faire simple, si les gens ont une machine, bah, c'est assez logique qu'ils soient payés plus, il y a de la formation, il y a du capital, etc. Un serveur de restaurant, il ne sera jamais bien payé, sauf à quitter son emploi ou monter dans les étages, c'est difficile. Quelqu'un qui travaille dans une usine, il est en général mieux payé. Donc l'emploi industriel est mieux rémunéré. D'autre part, quand vous travaillez dans une usine, vous avez une collectivité humaine. C'est très gratifiant et ça rapporte autre chose que de l'argent, ça rapporte quelque chose qui est précieux, c'est à de l'estime, un sentiment qu'on est inscrit dans un cadre sociologique et ça n'est pas sans importance. Pour finir, l'usine, elle va peut-être faire des roulements à billes qui seront mis dans une roue, qui sera envoyé dans une machine à l'autre bout du monde. Donc vous participez à la marche du monde. Pour toutes ces raisons, l'industrie est fondamentale pour que ce pays ait une forme de fierté de lui-même et pour que les territoires, comme on dit aujourd'hui, ne se sentent pas coupés du monde. Malheureusement, la France a accumulé depuis 30 ans, gauche et droite réunies, des politiques publiques qui, en quelque sorte, évidemment ce n'était pas l'objectif, détruisent, contribuent à détruire l'industrie. Et je reviens sur la comparaison et sur la compétitivité. Une usine en France est plus taxée qu'un entrepôt, ce qui est insensé. Une usine en France est beaucoup plus taxée que la même usine en Allemagne, ce qui est insensé. Et le résultat, devinez quoi, c'est qu'on n'a plus pratiquement que 10% de l'emploi qui est de l'emploi industriel. C'est un sujet fondamental parce que c'est un sujet économique très important et c'est un sujet sociologique très important. Et d'ailleurs, passer la frontière, moi je vais souvent, non pas à Davos comme je vous le disais, mais en Suisse, vous voyagez en Suisse, vous êtes dans le train, tous les 500 mètres, vous voyez une petite usine. Et vous avez là-bas un sentiment de cohésion sociale considérable, pas du tout d'amertume vis-à-vis de la mondialisation qui est regardée d'abord comme une opportunité, même si tout le monde n'en bénéficie pas de la même manière, ça tient beaucoup à la présence de l'industrie. Et ces sujets-là ont jusqu'à maintenant été très maltraité par les politiques publiques françaises. Je prends juste un exemple et je finis là-dessus. Il y a en France l'idée qu'il faut absolument alléger les charges sur les petits salaires. Ben, le résultat, c'est que ça allège les charges sur les services non qualifiés et que ça ne permet pas de faciliter le recrutement de gens qui travaillent, par exemple, dans l'industrie, dans des fonctions qualifiées. Donc, c'est suicidaire et on s'obstine dans cette voie. C'est pas la mondialisation, là. C'est la manière dont la France traite la mondialisation. Il y a une spécificité française de traiter la mondialisation.
Je suis absolument d'accord à 200% avec ce qui vient d'être dit. Et je dois dire que dans la trahison, en quelque sorte, des mandats des représentants politiques, on peut dire que les derniers présidents de la République ne se sont absolument pas préoccupés d'industrie. Ils ont vécu sur ce mythe d'une France sans usine, qui a été et qui est une catastrophe, non seulement une erreur, mais une faute politique et une faute dans l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis des Français.
Alors, puisqu'on est dans ce merveilleux consensus aujourd'hui, dans ce studio dominical de France Culture, est-ce qu'au fond, Gérard Courtois, il peut aussi y avoir une lecture positive de ces événements que nous vivons aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on est en train, justement, toute la France, tous les Français, de façon collective, on est en train de se ressaisir de tous ces sujets. On peut parler de tout. Tout le monde parle et a un avis de l'ISF. Voilà qui nous renvoie à notre propre première partie, mais il y a une lecture positive aussi de ces Français en train, finalement, de refaire de la politique.
Oui, c'est évident. Pour moi, c'est évident. C'est un pari dont je ne sais pas ce qu'il en adviendra au bout du compte. C'est une question essentielle. Qu'est-ce qui en sera fait de ce débat qui, entre guillemets, qui marche Je veux dire, les gens rentrent dedans. Ils rentrent dedans sur Internet, ils rentrent dedans dans les bourgs, dans les villages, dans les villes. Ils ont envie d'y participer. Mais vous disiez, foutez-nous la paix et occupez-vous de nous. Alors, Philippe Manière disait...
Je citais Pascal Bruckner.
Foutez-nous la paix, oui, en citant Bruckner. Foutez-nous la paix, c'est une tradition, mais occupez-vous de nous, c'est aussi. une forte tradition. J'ai en tête ce formidable bouquin qu'avait écrit Michel Schneider il y a, je ne sais plus, 15 ans ou 20 ans, qui s'appelait Big Mother, et c'était la description de la manière dont ce pays attend de l'État qu'il le prenne en charge et dont les citoyens de ce pays attendent de l'État qu'ils les prennent en charge.
Mais est-ce que dans cette injonction contradictoire au fond très française, c'est ce que vous avez l'air de nous dire tous, il n'y a pas de facto une impuissance du politique ?
Il y a eu une impuissance du politique, sinon il n'y aurait pas la défiance qu'on observe aujourd'hui. C'est l'impuissance du politique, et on parlait des impôts tout à l'heure, il y a l'injustice des impôts, il y a l'inefficacité de leur emploi, qui est tout aussi importante dans le ras-le-bol et dans le rejet de l'impôt. Mais le pari aujourd'hui pour la suite, c'est de retrouver une forme de prise sur la réalité, une forme de puissance du politique.
Mais je crois qu'il y a aussi dans cette tradition française du culte de l'État une surévaluation de ce que peut faire le politique. Et j'imagine qu'Aurélie ne va pas me contredire. Les Français se font toujours l'idée d'abord qu'il y a un homme miracle qu'ils viennent d'élire, et ensuite que les ministres ont un pouvoir absolument énorme sur la réalité des choses, et c'est évidemment inexact. Et donc je crois que entre l'emphase et l'importance, ce côté l'État doit materner les Français d'un côté, et cette idée que les politiques trahissent leur mandat, il y a cette erreur d'appréciation sur l'emprise du politique sur le réel.
Ça veut dire, Philippe Manière, que les Français doivent faire quoi ? Une sorte de travail de deuil sur le fait que l'homme providentiel n'existe pas, que la France n'est plus une grande puissance, qu'il faut se résoudre à ce qu'elle soit aussi un peu perdante dans cette mondialisation, que la puissance se déplace vers l'Orient.
Non, elle n'a pas raison d'être perdante dans la... Alors bien sûr, l'Orient va prendre une place croissante. Enfin, les pays émergents prennent une place croissante et c'est naturel. Et d'ailleurs, c'est très bon à la fois pour les populations de ces pays-là et indirectement et à terme pour nous. Cependant, la France a vocation à réussir dans la mondialisation. Ça n'est pas une fatalité, cet échec. Et pour revenir à ce qu'on disait sur occupez-vous de nous mais foutez-nous le paix, c'est effectivement une espèce d'injonction contradictoire, comme vous le disiez très justement, qui est ancienne. Mais on a vécu bien avec ça. La France a été très performante, très heureuse, très fière pendant plusieurs décennies, avec parfois des passages à vide, mais n'oublions pas que depuis 1945, à mon avis, la France
mais
a été relativement heureuse la moitié du temps. Alors voilà,
mêmes.
Le problème c'est ça, c'est qu'il y a l'impasse budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire maintenant qu'on peut en faire plus. Ça, quand on dit aux gens, on va en faire plus pour vous, ça, c'est mentir pour le coup, parce que ça n'est pas raisonnable, sauf à en faire moins par ailleurs.
Merci beaucoup à tous les quatre, Philippe Manière, Aurélie Filippetti, Christine Ockrent et Gérard Courtois. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé. Merci à Paolo Droyard, notre vaillant stagiaire cette semaine, à la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Je vous signale enfin que nous serions heureux de vous rencontrer, comme toujours, au Théâtre de l'Odéon le dimanche 10 février prochain. Notez d'ores et déjà cette date dans vos tablettes, c'est-à-dire dans deux semaines. L'Esprit Public sera de retour sur cette belle scène parisienne. Réservation sur le site d'ores et déjà du Théâtre de l'Odéon ou au 01 44 85 40 40, 44 85 40 40. La suite de votre dimanche sur France Culture, 12h45, Marc Weitzman, les Gilets jaunes. Et puis tout de suite, les bonnes choses à écouter avec vos enfants qui vous racontent que la cantine de leur école, c'est pas bon. Caroline Brouet invite des optimistes qui croient à la cantine délicieuse. Mais si, c'est possible, Philippe Manière. Bon dimanche, à la semaine prochaine, 11h.